n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Vous reconnaissez ?
Ah oui, bah oui.
C'est quoi ?
C'est le début de Petit Quinquin, c'est le commandant Van der Weyden.
Vous saviez que c'était le jingle de la chronique de Géraldine Matassin ?
Ouais.
Tous les jours, tous les matins, on entend le Petit Quinquin à cette antenne.
C'est pas vrai ?
Ouais.
Si.
Bonjour Géraldine.
Bonjour, bonjour Bruno Dumont, bonjour Adèle Van Rett, bonjour à toutes et à tous.
Et on vous entend aussi tous les matins, après le Petit Quinquin.
Après le Petit Quinquin.
Tous les matins, vous nous présentez votre journal de la philo. Alors, quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui ?
Eh bien, c'est une actualité qui a eu lieu début novembre. C'était les 7, 8 et 9 novembre, donc. La philosophe Judith Butler était invitée au Brésil, à Sao Paulo, pour y tenir une conférence sur les fins de la démocratie. Et loin d'y aborder ses thèses sur le genre pour lesquelles elle est d'abord connue, elle veut venait donc y parler de ses fins de la démocratie et voici comment elle a été accueillie à son arrivée à l'aéroport. Attention, c'est une vidéo amateur, le son n'est donc pas très bon, mais assez pour juger en tout cas de la teneur de cet accueil.
They're pedophiles. Yes, you get out of here. Get out. Be my judge. You're not welcome here. You're not welcome here.
Bon, vous avez compris.
You're not welcome, ça on le comprend, vous n'êtes pas la bienvenue.
Voilà, habituée à ce genre d'hostilité, Judith Butler a pourtant cette fois-ci demandé la protection de la police et elle a déclaré quelques jours plus tard, dans une lettre, son effroi, rappelant, je cite, que tout au long de l'histoire, on a attribué aux sorcières des pouvoirs qu'elles n'auraient jamais pu avoir en en faisant des boucs émissaires dont la mort était supposée purger la communauté de la corruption morale et sexuelle. Et c'est bien un des enjeux donc de cet événement, c'est la représentation que se fait et que fabrique l'opinion publique des discours féministes. Valorisés, mis en avant, réhabilités depuis plusieurs semaines, de manière excessive selon certains, avec ce qu'on a appelé une libération de la parole des femmes, ces discours peuvent donc être aussi diabolisés encore par une partie de l'opinion publique, comme en témoigne ici le cas de Judith Butler et des réseaux sociaux qui se sont fait l'écho donc de cet accueil. Entre diabolisation et réhabilitation des discours féministes, déchirés entre ces deux extrêmes, où situer cette fameuse opinion publique sur ce sujet, qui pourrait bien dire ce que le public, ce que la majorité, ce que donc le commun des mortels pense de ces discours féministes.
Le travail de pensée, même lorsqu'il est accompli en privé, est en cela une forme de cohabitation, une modalité de vivre et penser ensemble. Or, malgré tout, pour le meilleur et pour le pire, mon nom est associé à un certain trouble provoqué par les études de genre en France du moins. Il m'est donc agréable de voir que mes hôtes ce soir ne se préoccupent pas outre mesure de ce trouble ou peut-être cherchent-ils à souligner le mérite dans certains types de troubles.
Huée d'un côté, acclamée de l'autre, Judith Butler incarne d'une certaine manière le clivage de l'opinion publique, ou plutôt que ce terme trop courant de clivage, le trouble, comme elle le dit, de l'opinion publique sur les questions féministes. Mais voilà, l'opinion publique n'est-elle pas toujours trouble ? Qui peut prétendre connaître la tendance forcément mouvante de l'opinion publique ? Qui peut définir ce public qui prendrait la parole ? Que dire de cette éternelle majorité silencieuse ? Et qui peut croire que toute opinion soit droite et claire, autrement dit ? Encore une fois, l'opinion publique n'est-elle pas, par définition, trouble ?
Bah, je vous retourne la question, Géraldine. L'opinion publique n'est-elle pas toujours trouble ?
Exactement, et il faut lire la philosophe et historienne Mona Ouzouf qui, dans un article passionnant, paru il y a déjà 20 ans, oui, 20 ans, sur le concept d'opinion publique au XVIIIe siècle, rappelle que la définition de l'opinion publique n'apparaît que dans l'édition de 1798 du dictionnaire de l'Académie. Jusqu'ici, on ne trouvait que des définitions de l'opinion. Forcément douteuse, forcément faible face à la vérité. Et alors, quand l'opinion s'associe au public, elle devient pire que cela, elle devient populaire, soit l'avis d'une masse informe et vouée à ses passions. Mais il y a aussi une autre définition que prend l'opinion publique dès le XVIIIe siècle, c'est celui de tribunal. L'opinion publique, c'est alors cette force du peuple à faire barrière contre les tyrannies, les abus et les excès. Et là est aujourd'hui le problème. Comment peut-elle être, elle-même, cette opinion publique excessive et jugée des excès ? comment peut-elle être à la fois juge et partie ? Que l'opinion publique soit trouble, divisée, contradictoire, c'est un fait. Et on pourrait même y voir une force au final, celle de la prudence, du scepticisme, celle aussi des conflits qui s'y déploient et dialoguent. Mais comment peut-elle être donc dans le même temps un tribunal ? Eh bien, comme le rappelle Mona Ozouf citant Rousseau, le malheur de cette opinion publique est qu'elle nous oblige à demander aux autres ce que nous sommes. Et vouloir trancher cette opinion publique, forcément pour ou contre les féministes, forcément identifiable à un parti, et y voir un tribunal ne rend bizarrement justice à personne, ni à ce fameux public, ni à ses doutes, ni aux pensées et aux discours des juges et des jugés.
Merci Géraldine de nous avoir raconté cet événement donc, qui est arrivé à Judith Butler au Brésil au début du mois, et on n'en a pas beaucoup entendu parler.
Il y a un article du Monde et je renverrai sur le site du journal de la philo à l'article donc, de Mona Ozouf qu'il faut absolument lire.
Merci Géraldine.